VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 19 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Actualité oblige, nous allons consacrer une bonne partie de cette édition à la Gambie et aussi à notre journal de la CAN qui se déroule au Gabon. Pour nous aider à faire le point sur la Gambie, notre correspondant à Dakar, Seydina Abanyaï, notre confrère Mamadou Oumar Ndiaye de Top FM et du Témoin à Dakar, et Jean-Roger Bion. D'abord, le mandat de Yaya Diame a expiré à minuit GMT, heure locale, mercredi. La mission de la dernière chance du président mauritanien n'a pas abouti malgré ses déplacements en Gambie et au Sénégal. Une intervention militaire semble plus que probable si la situation n'évolue pas. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay.
Dans la journée du mercredi, la force d'intervention de la CDAO s'est dit prête à intervenir à Gambie si Yaya Diame ne quittait pas le pouvoir à minuit, temps universel. Ce délai expiré, les militaires étaient toujours dans l'attente d'une intervention imminente en Gambie, même si le chef d'état-major des armées gambiennes a assuré qu'il n'engagerait pas ses hommes dans un conflit armé. À quelques heures de l'investiture du nouveau président Adama Barrow, l'incertitude plane toujours sur le lieu de sa prestation de serment. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a assuré qu'il se ferait en territoire gambien. Face à cette situation délicate, les Gambiens continuent de trouver refuge par milliers au Sénégal. Seydina Abagay, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Donc, un véritable ballet diplomatique a eu lieu pour convaincre Yaya Diame de céder le pouvoir à Adama Barrow. Jean-Roger Bion.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a terminé une mission dite de la dernière chance à Banjul. La télévision publique gambienne a déclaré que le président mauritanien s'était dit encouragé par ses discussions avec M. Diame sur les chances de parvenir à une solution pacifique. Puis l'avion du président mauritanien s'est posé à Dakar pour rencontrer le président élu Adama Barrow et son homologue sénégalais Macky Sall. Des troupes ouest-africaines sont prêtes à intervenir en cas d'échec de la négociation, la CDAO ayant à plusieurs reprises averti qu'elle pourrait recourir à la force. À l'ONU, le Sénégal a présenté mercredi au Conseil de sécurité un projet de résolution pour soutenir les efforts de la CDAO. Dakar demande à l'ONU de soutenir toutes les mesures nécessaires pour assurer la passation de pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce jeudi. À Banjul, Yaya Diame est de plus en plus isolé. La vice-présidente Issatou Ndiaye Saïdi a démissionné hier et la veille. Le ministre de la Santé Omar Sy. Avant eux, plusieurs ministres avaient quitté leurs fonctions, dont ceux des Affaires étrangères, des Finances et de l'Information.
Merci Jean-Roger. Maintenant, nous retournons à Dakar pour y retrouver Mamadou Oumar Ndiaye, directeur de Top FM et du Témoin. Mamadou, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Alors, une intervention imminente en Gambie?
Une intervention, en tout cas, repoussée de quelques heures dans la mesure où elle devait avoir lieu exactement à 0 heure. Les troupes étaient prêtes. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, elles sont en alerte Guindé, ce qui est le niveau d'alerte maximal. Au niveau des forces armées sénégalaises, il y a 3 niveaux d'alerte et le niveau rouge, c'est l'alerte Guindé. Les troupes en alerte sont en alerte Guindé depuis 24 heures. Et dans la journée, on avait reçu l'information selon laquelle, à minuit exactement, elle passerait à l'offensive. Si le président Diame, bien entendu, n'avait pas démissionné entre-temps. Et c'est les troupes sénégalaises et d'ailleurs les forces de la CDAO sont placées sous le commandement du général sénégalais François Ndiaye, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc, au moment où vraiment tout le monde s'attendait au déclenchement des hostilités, c'est là qu'est intervenue la mission de la dernière chance du président mauritanien Ould Abdel Aziz, qui a eu en tout cas pour effet de reculer de quelques heures le déclenchement de l'offensive, donc des forces qui auraient dû se produire encore une fois à minuit. Donc il y a encore un léger sursis, il y a une fenêtre d'opportunité peut-être qui va encore être mise à profit pour pour faire partir le président Jammeh.
Merci beaucoup, Mamadou Mandiaye, qui nous parlait de Dakar. Et j'ai reçu cette dépêche du site Séné Plus à Dakar. Et donc, la dépêche dit, selon des sources, le vainqueur de l'élection présidentielle gambienne pourrait prêter serment lors d'une cérémonie privée présidée par un juge, soit en territoire gambien, soit dans une ambassade gambienne à l'étranger. Une fois investi comme président, M. Barrot pourrait demander à la CEDEAO d'intervenir militairement à l'intérieur de la Gambie pour l'aider à stabiliser le pays. Et Séné Plus ajoute, le navire nigérian NSS Unity serait déjà au large des côtes gambiennes et sénégalaises, tandis que 200 soldats nigérians et toute une flotte aérienne envoyée par le président Buhari seraient déjà sur le sol sénégalais, a indiqué donc un porte-parole de l'armée nigériane cité par le site Séné Plus. Merci à Idriss Fall, à la rédaction, à Jean-Roger Bion et à Mamadou Oumar Ndiaye ainsi qu'à Seydina Abagé pour ce mini dossier sur la Gambie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies a accepté mercredi d'examiner l'opportunité d'infliger des sanctions à ceux qui feraient obstacle au processus de paix au Mali après un attentat suicide revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a fait près de 60 morts. L'attentat suicide perpétré mercredi à Gao, principale ville du nord du pays, visait des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix de mi-juin 2015. Le président Barack Obama a tenu hier sa dernière conférence de presse. Demain vendredi, il va quitter la Maison-Blanche après deux mandats. Eric Manirakiza.
Monsieur Obama a d'abord défendu sa décision de commuer la peine de Chelsea Manning, une militaire transsexuelle qui devait purger 35 ans de prison. Elle avait été condamnée en août 2013 pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks. Sur la Russie, le président Obama a précisé qu'il est dans l'intérêt des États-Unis et du monde d'avoir des relations constructives avec Moscou. Il a toutefois indiqué que cette approche s'est heurtée à une escalade du discours anti-américain avec le retour de Vladimir Poutine en 2012. Barack Obama a également mis en garde son successeur sur le conflit israélo-palestinien. Cette question peut être explosive, dit-il, soulignant que le statu quo est intenable. Enfin, le 44e président des États-Unis a ajouté qu'il va écrire et profiter de sa famille en célébrant cette année ses 25 ans de mariage avec son épouse Michelle. Cependant, M. Obama n'a pas exclu de s'exprimer publiquement si les valeurs fondamentales de l'Amérique sont en jeu. C'est notamment sur des sujets comme la discrimination, le droit de vote, la liberté de la presse ou l'immigration.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pineau sur VO Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Soirée riche en émotions dans le groupe A à Libreville hier soir. Au stade de l'Amitié, les Lions Indomptables sont passés proches de la sortie avant de se reprendre face à une étonnante équipe bissao-guinéenne. Les Licas ouvrent la marque dès la 13e minute de jeu. Ils auraient même pu doubler la mise avant que les Camerounais ne se libèrent à la 59e minute grâce à un but égalisateur de Sébastien Siani. À la 75e minute, c'est Ngadeou qui libère le Cameroun. Le score ne changera pas, 2-1. Dommage pour la Guinée-Bissau qui méritait mieux. Écoutez les explications du joueur camerounais Georges Mangebec.
Je pense que la première période, on n'était pas dedans. Ils étaient mieux que nous dans l'envie, dans l'impact. Donc on s'est dit plein de choses à la mi-temps. Donc on n'a pas montré le meilleur visage du Cameroun, des Lions Indomptables. Et on a tout donné en deuxième mi-temps et on a pu renverser la vapeur. On savait que voilà, c'était une équipe sous coup de pied arrêté qui pouvait décanter une situation. On n'a pas été attentif, donc voilà, mais on n'a pas baissé les bras, on a essayé de jouer, on a joué contre une équipe qui était très basse et il fallait être patient pour pouvoir trouver la faille. On a su le faire, on a attendu la fin pour pouvoir débloquer la situation.
Georges Mangebec, joueur camerounais sur VOA Afrique. Avec cette victoire, le Cameroun prend la tête du groupe A avec 4 points devant le Gabon et le Burkina Faso. Deuxième ex aequo avec 2 points, les deux équipes qui ont fait match nul hier soir à Libreville. Compte rendu de l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Gabon-Burkina Faso, le match de la rédemption pour les Panthères gabonaises après leur décevant match nul contre la Guinée-Bissau. C'est pourtant les Burkinabés qui ouvrent la marque en première période. Entré en remplacement de Jonathan Pitroapa blessé, Préjus Nakulma a faussé compagnie au défenseur gabonais avant de battre le gardien Didier Ovono Eban. Encouragés par leur public, les Panthères gabonaises ont multiplié les actions offensives et sur une contre-attaque, Pierre-Emerick Aubameyang se fait faucher dans la surface de réparation par le gardien burkinabé Kwaku Hervé Kofi. Il obtient un pénalty qu'il transforme de manière magistrale. Un pénalty tout à fait justifié a tenu à souligner le coach burkinabé Paulo Duarte lors de la conférence d'après-match. Son homologue gabonais Antonio Camacho a noté de son côté que les chances de qualification restent les mêmes pour les deux équipes en dernier match du groupe D et que les blessés ne constituent pas une excuse. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Place au match du groupe B ce jeudi à Franceville, 16h temps universel, le duel du Maghreb, Tunisie, Algérie et malheureux vaincus. 19h temps universel, le leader de cette poule, le Sénégal, qui aura un match piège face au Zimbabwe, qui avait chahuté l'Algérie au match précédent. On retrouve sur place Amdine Sy pour VOA Afrique à Franceville.
En effet, Sénégalais et Zimbabwéens vont se croiser pour la sixième fois, toute compétition confondue, sanctionnée par 3 succès de chaque côté. Cela veut dire que ce match aura un parfum épique car il va départager les deux équipes. Cette septième confrontation entre Lyon et Warriors s'annonce difficile selon le coach des Lyons du Sénégal, Aliou Cissé.
Nous savons que nous allons vers un match difficile, c'est vrai qu'on les a vus évoluer contre l'Algérie. Ça a surpris beaucoup de gens, mais moi personnellement, ça ne me surprend pas parce que ça fait un bon bout de temps que je surveille cette équipe de Zimbabwe. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous sommes dans une poule difficile où chacun aura sa chance de passer.
Pour le défenseur Kalidou Koulibaly qui aura en face de lui des flèches comme Malagika, le match ne sera pas du tout facile.
Le match du Zimbabwe va être très difficile. Même pour les favoris, c'est bien pour eux. Nous, on sait ce qu'on est. On est là pour passer ce tour. On va tout faire pour ça. Après, voilà, que ça soit favori ou pas, nous on est concentré sur notre match, on veut gagner ce match.
Du côté du Zimbabwe, la confiance règne. D'ailleurs, pour le coach des Warriors, Kalisa, son équipe partira avec la faveur des pronostics. Qui du Sénégal ou du Zimbabwe va prendre le dessus? Réponse jeudi soir. Amédine Sy, Franceville, Voix Afrique.
Parlons à présent des Léopards de la République démocratique du Congo qui poursuivent à Oyem leur préparation en vue de la deuxième journée du groupe C. Elle aura lieu vendredi. Ce sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire, les champions en titre. La séance d'hier à huis clos était consacrée au travail tactique, mais l'incertitude plane toujours sur le capitaine Zakouani et le défendeur Fabrice Nzakala, tous deux blessés lors du premier match. Faisons le point tout de suite avec Thierry Kambundi de Top Congo FM. Notre station partenaire à Kinshasa.
À 2 jours du match contre les éléphants de Côte d'Ivoire, Florent Ibengei Kouangé a demandé de la concentration pour mettre en place son schéma tactique. Contrairement à la séance de mardi, le capitaine Gabriel Zakouani et Fabrice Nsakala étaient bel et bien présents, mais à l'écart. Ils n'ont ni couru ni touché au ballon. Quoique confiant à leur sujet, Florent Ibengué nous apprend qu'ils pourraient faire sans eux.
On est en train de travailler pour les remettre en condition le plus rapidement possible. Pour l'instant, ils se soignent. De toute façon, ce sont les deux. On a un groupe de 23. S'ils ne sont pas rétablis pour vendredi, je composerai mon 11 à partir de 21 ou de 23.
Face à la Côte d'Ivoire, ce vendredi, Dieu merci Mbokani Bezoa veut clairement débuter le match. Il dit s'attendre à une rencontre très difficile.
Je pense qu'on est en groupe, on va travailler tous ensemble pour qu'on gagne encore les prochains matchs.
Tu pourras tenir ta place comme titulaire lors de la prochaine rencontre?
Oui, bien sûr, parce que le deuxième match, c'est pas comme le premier match. Je pense qu'avec les Ivoiriens, ça sera le match difficile parce qu'eux aussi sont aussi trop forts aussi dans le Diwali aussi. Bon.
Oyem, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Idrissa, nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour et nous commençons avec la Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Nigeria relance un vieux projet de chemin de fer dans le cadre du plan Zéro Pétrole. Cette ligne reliera l'usine d'Ajaokuta à une mine de minerai de fer dans l'état central de Kogi, la ville portuaire de Wari dans le sud et l'état de Kaduna dans le nord d'ici 2019. Lancé une première fois en 1979, le projet aurait coûté plus de 4,5 milliards de dollars jusqu'en 1993, selon la Banque mondiale. Le Gabon et la RDC pourraient solliciter un appui du FMI en 2017, selon l'agence de notation américaine Moody's, disant qu'ils font face à des pressions de liquidité et ne sont pas encore sous un programme avec le FMI. Les réserves de recettes fiscales de la RDC, qui étaient de 34% du PIB en 2014, n'en représentaient plus que 23% fin 2015. Et le Gabon risque d'être contraint de puiser dans ses réserves fiscales comme en 2015. Au terme de l'exercice 2016, le capital propre de la Poste togolaise s'établit à 1,7 milliard de francs CFA contre 921 millions l'année précédente. Une hausse principalement due à l'offre de services financiers dans le cadre de sa politique de diversification, dont Western Union, MoneyGram, Wari, Ria et Money Express. La société des postes du Togo est dotée d'un réseau de 135 agences sur un marché à forte concurrence.
Pour revenir sur la Gambie, autre conséquence de la crise politique dans ce pays, l'afflux de réfugiés vers le Sénégal. Selon les derniers chiffres des autorités sénégalaises, 26 000 personnes ont traversé la frontière entre la Gambie et le Sénégal entre le 1er et le 16 janvier. Les équipes du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parlent, elles, d'un flux ininterrompu. Hélène Co, porte-parole du HCR à Dakar, fait le point avec Tatiana Mosso.
La plupart des gens qui passent, en fait, ce sont des enfants. 75% à 80% sont des enfants accompagnés par des femmes. Ça veut dire que les parents, les familles qui habitent en Gambie ont pensé avant tout à mettre leurs enfants à l'abri au Sénégal. Ces personnes qui arrivent, ces enfants qui arrivent, restent principalement chez des membres de leur famille, du côté sénégalais, ou dans des familles hôtes. Et c'est vrai que l'une des priorités du gouvernement sénégalais comme des agences humanitaires, ça va aussi d'être sûr que ces familles puissent avoir suffisamment de ressources pour aider les nouvelles arrivées.
Est-ce que ces réfugiés sont uniquement des Gambiens ?
Ce sont des flux mixtes, ce sont des personnes de différentes nationalités, différents profils qui arrivent. Il y a des Gambiens, il y a des Sénégalais, il y a des gens qui ont la double nationalité sénégalaise et gambienne. Les équipes de l'HCR rapportent aussi qu'il y a des Ghanéens, des Libériens, des Guinéens, des Mauritaniens qui partent la Gambie pour temporairement au moins venir au Sénégal. Ce qu'il faut aussi noter quand même, c'est qu'il y a toujours eu de toute façon entre les deux pays un flux, un trafic transitoire normal, puisqu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a toujours eu forcément beaucoup d'échanges commerciaux ou de gens qui passaient pour aller voir des membres de leur famille.
Pour vos équipes, quelle est l'urgence lorsqu'ils accueillent ces réfugiés à la frontière ?
Les autorités sénégalaises sont présentes, bien sûr, sur le terrain, qui recensent en fait les gens qui arrivent, des chiffres au niveau de leurs besoins. Les gens qui arrivent sont en bon état de santé, ils viennent juste de quitter, ils arrivent soit en bus, soit avec leur propre voiture. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros besoins immédiats. Mais par contre, c'est vrai qu'ils vont rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en restant dans des familles autres, il va forcément y avoir des besoins auxquels il va falloir répondre. Les autorités sénégalaises ont communiqué qu'elles étaient prêtes à assister rapidement jusqu'à 50 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 personnes qui vont passer, mais leur plan de contingence immédiat, c'est ça. Leur plan de contingence à plus long terme, c'est jusqu'à 100 000 personnes. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à distribuer très rapidement dans les jours qui viennent des denrées, notamment de l'huile, du sucre, puis aussi des couvertures, des draps, des nattes, donc de l'assistance de première nécessité pour aider les gens qui arrivent.
Hélène Co, porte-parole du HCR à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les auteurs de l'attentat de Gao veulent dérailler le processus de paix, mais le Mali poursuivra ses efforts pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. C'est ce qu'a déclaré ou réaffirmé Muntaga Tall, ministre malien de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement. Au micro d'Abdourahman Dia, M. Tall explique d'abord les premières décisions du gouvernement après l'attentat qui a fait au moins 60 morts dans un camp de cantonnement d'ex-combattants.
Le président de la République a instruit, premièrement, au ministre de la Défense et des anciens combattants de se rendre immédiatement à Gao auprès des troupes pour voir avec les éléments des forces de défense et de sécurité ce qu'il convient de faire pour soulager les blessés, accompagner les familles endeuillées et voir comment actualiser et renforcer le plan de sécurisation des personnes et des biens.
Monsieur le ministre, pour vous, quel était l'objectif des assaillants en s'attaquant à ce camp?
Ce sont les ennemis de la paix, les ennemis du Mali qui ont attaqué le Mali. Les ennemis de la paix, puisque le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, est un maillon essentiel dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Il s'agit pour ceux qui hier s'étaient déçus de se retrouver sur le même site, pratiquement confrères d'armes, pour faire des patrouilles mixtes pour consolider la paix dans les régions situées au nord du Mali. De dire s'attaquer à ces éléments, c'est faire en sorte que la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger échoue. Mais ce qui est sûr, et là le gouvernement est très clair là-dessus, c'est que aucun chantage, aucune menace ne nous fera reculer. Le Mali a pris des engagements, a apposé sa signature, sa parole sera respectée, sa signature honorée.
Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de la suite du processus de paix?
La mise en œuvre de l'accord de paix a connu des difficultés. Elle va encore en connaître. Mais c'est la détermination du gouvernement, la volonté du peuple malien qui vont permettre de surmonter ces difficultés et d'aller vers la paix. Il n'y a pas de sanctuaire aujourd'hui contre la terreur et le terrorisme. Nous déjouons à longueur de journée des tentatives d'attentats, mais il peut arriver des actes comme celui que nous avons connu. Mais rien de tout cela ne nous fera dévier du chemin.
Muntaga Tall, ministre malien de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
En République centrafricaine, les accidents de la route ont doublé de fréquence ces jours-ci à Bangui depuis le 1er janvier. L'hôpital communautaire le plus grand de la capitale a enregistré plus de 250 accidents. Ces faits sont liés pour la plupart aux activités des taxis-motos. Pour réguler ce secteur, la police mène depuis 48 heures une vaste opération dans le centre-ville, nous dit de Bangui Freeman Sipila.
Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il y ait un accident de circulation à Bangui. En décembre dernier, l'hôpital communautaire a enregistré près de 800 victimes, dont la moitié est liée aux accidents des taxis-motos. Un chiffre qui risquerait de connaître une hausse au mois de janvier 2017. Docteur Joachim Paterne-Tembeti, directeur de l'hôpital communautaire.
Au mois de décembre, nous avons reçu au total 710 personnes que nous avons consultées aux urgences chirurgicales. Sur les 710, nous avons eu 465 cas d'accidents moto. Et quand je vous prends maintenant la statistique du 1er janvier, à l'instant où vous êtes en train de m'interviewer, nous avons eu au total 223 personnes que nous avons eu à consulter déjà. Sur les 223 personnes, il y a eu 114 cas d'accidents moto.
Conséquence de ces multiples accidents, le débordement des services de traumatologie de cette structure sanitaire, comme l'explique le docteur Bertrand Tekpa, son chef de service.
Et nous sommes débordés et si vous voyez notre service n'est plus seulement la traumato que vous venez souvent voir. Si vous allez en gynéco, les gens même disent maintenant qu'on a une sorte d'annexe du côté de service de gynécologie.
Selon les constats des autorités, ces accidents sont dus pour la plupart à la consommation des comprimés de tramadol, des boissons alcoolisées en sachet, à l'excès de vitesse et à la non-maîtrise du code de la route et des engins. Pour minimiser les dégâts, la police a lancé ces dernières 48 heures une vaste opération de saisie des motos en situation irrégulière. Lieutenant Ella Symphorienne Ngarombor est commandant de la compagnie de circulation routière.
Vous avez vu plusieurs motos parquées, mais il n'y a aucun propriétaire qui manifeste de venir payer. Vous avez vu, il y a une quittance qui est là, mais personne n'est venu payer. Tous ces motos-là vont être immobilisées jusqu'à ce que les propriétaires viennent payer à l'État. Les taxis-motos exercent leur commerce d'une manière illégale. Et voilà maintenant, aujourd'hui, ils sont appréhendés, ils sont tenus de payer les amendes proprement dites sur quittance. Toutes ces motos qui sont dehors, il n'y a aucun propriétaire qui est venu me présenter la police d'assurance, le permis catégorie A1, catégorie 2, même ni la carte grise.
De son côté aussi, le ministère des Transports n'entend pas croiser les bras. Il a organisé au début de la semaine une réunion avec les responsables des associations des taxis-motos. Objectif, les sensibiliser au respect des règles de conduite et au paiement des taxes à l'État. Les accidents de circulation liés aux activités des taxis-motos ont déjà provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes et l'infirmité de centaines d'autres à Bangui et à l'intérieur du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Enfin, ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a promis de sévir concernant l'immigration clandestine et il a promis de déporter 2 à 3 millions d'immigrants sans papiers qui, selon lui, ont des antécédents criminels. Un reportage de Mike Sullivan, rendu ici par Arzuma Compaoré.
La bataille sur l'application des lois d'immigration a déjà commencé dans certains états et villes qui veulent résister à la pression fédérale. Donald Trump a exposé son plan d'immigration en août à Phoenix.
Anyone who has entered the United States illegally.
Quiconque est entré aux États-Unis illégalement est sujet à l'expulsion. C'est pour cela que nous avons des lois et que nous sommes un pays. Sinon, nous n'avons pas de pays.
Donald Trump a estimé à plus de 2 ou 3 millions d'immigrants sans papiers avec casier judiciaire chargé. Pour beaucoup, ce n'est pas rassurant. Plus de 2,7 millions d'immigrants sans papiers ont été déportés sous le président Barack Obama. Des activistes ont manifesté contre ce qui, à leurs yeux, risque d'être encore plus sévère sous Trump. Kevin DeLeon, un habitant de la Californie.
Je reconnais qu'il sera le président ces 4 prochaines années. C'est notre réalité. Nous voulons trouver un terrain d'entente là où nous le pouvons. Mais nous sommes également prêts à défendre la prospérité de la Californie.
La Californie a recruté l'ancien ministre de la Justice, Eric Holder, maintenant avocat privé, pour lutter contre l'administration Trump sur les questions allant de l'immigration au changement climatique. Certaines villes, dont Los Angeles, limitent la coopération avec l'agence fédérale connue sous le nom de l'Office de l'immigration et des douanes. Luis Quiñones, membre du conseil consultatif hispanique de Trump, précise que ceux qui doivent avoir des craintes sont les criminels et les musulmans qui voudraient faire du mal. Luis Quiñones.
We are going to be targeting extremes.
Nous allons cibler les musulmans extrémistes qui ne sont pas pacifistes. Quiconque veut faire du mal n'est pas bienvenu. Nous les poursuivrons.
Anyone who wants to do harm, they're not wanted. They're not welcome. We'll pursue them.
La Californie est l'un des 12 États qui permet aux immigrés sans papiers d'obtenir un permis de conduire. Les immigrants légaux sont divisés. Certains s'opposent au plan pour renforcer la loi, expulser les criminels étrangers et construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. D'autres le soutiennent. David Wang, immigrant chinois.
Je ne pense pas que les immigrés légaux voudraient voir des immigrés clandestins, surtout ceux qui ont commis des crimes, rester dans ce pays.
Les immigrés illégaux représentent 3 à 4% de la population des États-Unis. Les mesures fédérales d'application de la loi s'intensifient. Les dirigeants locaux affirment que le débat est passé de Washington à d'autres villes américaines.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.